Grand merci à Muriel pour cette lecture. Merci aussi à différents membres de notre équipe ici présents. C'est chouette d'avoir Muriel et Bora avec nous pour la première fois, je pense, pour chanter ici en présentiel. Nous espérons aussi voir petit à petit d'autres musiciens qui se joignent de temps à autre à notre équipe. Bon courage à vous qui êtes encore à la maison. Nous comprenons que c'est un défi. Je comprends que peut-être vous avez quelqu'un à côté de vous qui a envie de s'endormir parce qu'il est confortable dans son canapé. Vous savez de qui je parle. Ah, non, je ne sais pas de qui je parle. Donc, à vous de voir cela, à vous d'essayer d'être éveillé, à vous peut-être de prendre votre Bible, d'avoir la Bible ouverte. On va aussi projeter sur l'écran quelques versets d'ici et là, mais ça va vous aider, je pense, à pouvoir suivre l'histoire si vous avez la Bible vous-même ouverte sous les yeux ou allumée sur votre téléphone, comme vous le souhaitez. Nous avons déjà prié, donc on y va dans cette nouvelle série de Genèse chapitre 25 à partir du verset 19 et nous allons au cours des semaines à venir jusqu'à la fin du chapitre 35. Et j'aimerais commencer en vous demandant si de temps à autre vous avez l'impression d'être un chrétien de deuxième classe. Est-ce que cela vous arrive de temps à autre? Que dans le wagon de la première classe, il y a des pros. C'est là où tout va bien, là où ceux et celles qui s'y trouvent sont bien formés dans leur foi. Et si vous regardez première classe de par les vitres de l'extérieur, là où il y a des quatre sièges autour d'une table, il y a des familles et la table au milieu de cette famille est bien propre. Il y a des bibles dessous. Chacun écoute l'autre avec respect et sincérité. Il y a des sourires bienveillants sur le visage. Ils prient. Ils sont tous reconnaissants pour ce qu'ils ont. La paix règne. Peut-être on entend parler de certains chrétiens, ce qu'on appelle parfois à temps plein dans le ministère, et on suppose que tout cela, c'est eux qui se trouvent dans ce wagon de première classe. Et comme vous le savez, la deuxième classe, ce n'est pas comme cela. Hein. C'est plus mouvementé en deuxième classe, non? Il y a des moments, oui, de paix et de reconnaissance, mais il y a également des disputes, des frustrations. Et là où il y a les quatre sièges autour d'une table, on voit certains qui sont plutôt endormis sur la chaise à côté. On voit d'autres qui sont en larmes. On voit d'autres qui sont distraits, peut-être même ennuyés. Et les enfants ont plutôt leur nez à tout moment dans un écran. Sur la table, la Bible est un peu moins présente, nous devons le dire. Peut-être, pour un certain nombre d'entre nous, nous nous demandons où va ce train dans lequel on se trouve. Vous regardez le paysage un peu autour lorsque vous êtes dans le train et vous vous dites, est-ce pour finir, c'est préférable de quitter le train? Qu'au lieu de voyager vers cette destination, vers la cité céleste, vous voulez profiter des choses qui passent devant vos yeux. Autour de vous, vivre pour le moment, dans le présent, vous paraît préférable que d'être sur ce train. Peut-être vous ne vous considérez plutôt pour le moment même à l'extérieur du train. Vous êtes parmi ceux qui regardent ceux qui sont à l'intérieur. Et vous dites que vous vous regardiez en première classe ou en deuxième classe. Ai-je ma place parmi de telles personnes? Ces personnes qui ont l'air, d'une certaine manière en tout cas, engagées, saintes, est-ce qu'ils connaissent vraiment ma vie à moi? Est-ce qu'ils comprennent ce qui est vraiment dans mon cœur à moi? Ce Dieu dont ils parlent, sait-il ce qu'il en est réellement de ma vie à moi? Peut-il se servir de moi, un tel Dieu? Alors, si nous démarrons cette nouvelle série de prédications dans Genèse 25 jusqu'à 35, c'est pour que nous consacrions donc un bon moment à contempler le récit de la vie de Jacob. Toute cette section de ce livre tourne autour de Jacob. Jacob, peut-être vous le savez, est très loin d'être un exemple à tous égards. Non, on peut dire que Jacob est plutôt, surtout au début, un petit vaurien, un petit méchant. Nous pouvons également dire qu'il fait partie d'une famille plutôt dysfonctionnelle. Et pourtant, Dieu, dans sa grâce, et selon son plan, il se sert de Jacob. À travers lui, à travers différents membres de sa famille, Dieu effectue son plan de bénédiction, un plan qu'il avait annoncé d'abord à Abraham, un plan à propos de la lignée d'Abraham. Car savez-vous que la religion chrétienne, la religion biblique, n'est pas une collection d'histoires moralisatrices. Voilà, j'ai pu le dire. Ce n'est pas une histoire moralisatrice avec des hommes et des femmes pieux qui montrent l'exemple de comment nous devons adorer Dieu. Oui, de temps à autre, il y a des exemples, mais de manière générale, c'est une histoire d'un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui fait des promesses aux hommes, et qui effectue ses promesses au cours de l'histoire en appelant des hommes et des femmes tout à fait ordinaires, oui, parfois même dysfonctionnels, et il se sert de telles personnes pour ses propres objectifs à lui. C'est ça ce que nous allons voir tout au long de cette section du livre de la Genèse. Et si donc nous captons cette vérité-là, si nous comprenons que le parcours chrétien n'est pas un train avec des classes différentes, première classe, deuxième classe, etc. Non, il n'y a qu'une seule classe, un grand wagon, si vous voulez, dans lequel il y a tous ceux qui sont appelés par Dieu. Et c'est Dieu qui nous fournit, lorsque nous sommes dans le train, des raisons nécessaires, encourageantes pour tenir dans le train au lieu de vouloir sortir. Et c'est pourquoi j'ai intitulé l'ensemble donc, de ce message de ce matin « L'histoire de Dieu, ses plans et une famille avec de grandes failles ». Ce texte qui sert comme introduction, si vous voulez, à l'ensemble de tous ces chapitres de cette section-ci, qui soulève dès le début des thèmes qui seront abordés tout au long de cette section. Et je propose donc avec vous, pour quelques minutes maintenant, de parcourir une nouvelle fois cette histoire, chapitre 25, et ensuite d'arriver à une conclusion avec deux applications qui en découlent pour nous tous. Donc, on y va sur l'ensemble de cette histoire. Alors, dès le premier verset, verset 19, après avoir annoncé qu'à partir de ce moment-ci, il est question de la postérité d'Isaac, le récit ne commence pas avec Isaac et ce que lui, il a engendré, mais le récit commence plutôt, une nouvelle fois, avec Abraham, qui avait, lui, engendré Isaac. Mais pourquoi ce petit détail-là? Pour nous rappeler que cette question de descendance, postérité, est une question capitale pour ce livre, la Genèse. Dès la chute, au chapitre 3, Dieu avait annoncé à Ève que sa descendance écrasera la tête du serpent. Et au chapitre 12, nous apprenons qu'Abraham aura, lui, une descendance. De lui viendra une grande nation, bénie par Dieu, et toute la famille de la terre seront bénies par lui. Dès ce moment, donc le lecteur du livre de la Genèse est attentif à la descendance d'Abraham. Malgré l'âge de l'épouse d'Abraham, Sarah, un fils, Isaac, leur aîné. C'est lui le fils de la promesse. Et notre texte en est conscient tout au début, ici au verset 19. Cette lignée d'Abraham sera transmise comment? Alors, verset 20, Isaac s'est marié à Rebecca, la sœur de Laban. Laban qui jouera un rôle pénible dans la vie de Jacob plus tard. Isaac, verset 21, intercédait le Seigneur en faveur de sa femme, qu'elle aussi enfante un fils pour que la lignée de la promesse soit maintenue. Et l'Éternel entendit, nous dit le texte, sa supplication. Le verset 26 nous dit qu'il fallait 20 ans pour que le Seigneur réponde à cette prière. Car Isaac avait 40 ans lorsqu'il avait pris Rebecca pour femme et 60 ans lorsque les jumeaux sont nés. Cela est un petit rappel déjà à la persévérance dans la prière, n'est-ce pas? 20 ans. Lorsque nous envoyons aujourd'hui un message WhatsApp, dès que nous voyons les deux petites flèches bleues qui indiquent que les autres ont bien reçu le message, on s'attend à une réponse dans combien de temps? 5 minutes? On commence à dire après 10 minutes qu'ils sont impolis? Ici, il fallait 20 ans pour avoir la réponse. Mais un long délai dans la Bible, surtout pour une femme stérile, est souvent indicateur que Dieu est en train d'agir derrière la scène, ce qui est le cas. Ici, Rebecca, après ces longues années, sans doute d'angoisse et de tristesse, devient, elle, enceinte. Mais au lieu d'être en paix, elle expérimente une autre peine, car dans son ventre, les deux garçons, nous dit le texte, se heurtaient. Beaucoup de femmes savent ce que c'est, la nausée du matin. Ce n'est pas agréable. Mais ici, je pense que c'est pire, car elle se demande, qu'est-ce qui m'arrive? Ou même dans une autre traduction, si c'est comme ça, pourquoi en suis-je arrivé là? C'est pénible. Ce qui m'arrive ici. Elle consulte donc l'Éternel, nous dit le verset 22. On ne sait pas comment, probablement par l'intermédiaire d'un prophète. Ce n'est pas précisé ici parce que ce n'est pas important pour l'histoire. Et Dieu donc lui dit que la bagarre dans son ventre anticipe une lutte qu'il y aura entre les deux frères et les nations qui découleront de ses deux frères. Deux nations sont dans ton ventre. Deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Voici ce que dit la prophétie. Qu'est-ce qu'elle aurait compris au moment même de cette prophétie? Ce n'est pas certain. Mais cette prophétie devient plus clair lors de l'enfantement des jumeaux. L'un était roux, bien roux. Le texte souligne le poil qu'il avait. D'où vient son nom? Le mot Ésaü évoque de manière très proche le mot en hébreu pour poil. L'autre, Jacob, tenait à la naissance, par la main, le talon de son frère. Déterminé dès sa naissance de rattraper, de dépasser son frère. D'où venait son nom à lui, Jacob, car le mot est fort proche au mot en hébreu pour talon. Verset 27, les garçons grandissent et voilà, ils sont très différents l'un de l'autre. Ésaü devint, nous dit le texte, un habile chasseur, un homme de la campagne, de l'extérieur. Isaac, son père, l'aimait. Verset 28. Pourquoi? Car il avait, Isaac, le goût pour le gibier. Petite touche intéressante, humaine, n'est-ce pas? Jacob, c'est l'inverse. C'est Rebecca qui l'aimait. Un homme, plutôt, de l'intérieur, il restait sous les tentes. Du coup, forcément, il prenait plus de temps auprès de sa mère. Et donc, il devient en quelque sorte son petit chouchou à elle. C'est un rappel aux parents de faire gaffe au favoritisme au sein de votre famille. Sur base souvent de l'enfant qui nous ressemble le plus. Ne faites pas ça. Le texte appelle Jacob ici un homme tranquille. On pourrait aussi traduire cela par complet ou même parfait. Non pas, bien entendu, dans le sens moral ici, mais probablement dans le sens que Jacob était indépendant dans sa pensée. Il gardait un peu ses pensées pour lui, sans rien dévoiler aux autres. Et cela nous mène donc à l'événement déclencheur pour la lutte entre les deux frères. Car cela met en relief le côté mesquin, rusé de Jacob, le côté profane et la vision à court terme d'Ésaü. Oui, verset 29, un jour que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de la campagne, accablé de fatigue. Pas de surprise dans de telles circonstances. Il désire à manger. « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. » Ce roux répété deux fois, comme si Ésaü crève de faim. Il rêve de ce plat qu'il aura de la part de Jacob. Ésaü est roux de poil, on le sait. Il veut manger donc ce roux, cette viande, potage de viande rouge. Et son deuxième nom, nous dit le texte Édom, est un autre jeu de mots sur le mot en hébreu pour rouge ou roux. Jacob, lui, va droit au but. Verset 31. « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Le premier-né de la famille héritait à cette époque-là le double des autres enfants. Il avait également l'honneur et la charge, la responsabilité d'être chef de la famille une fois que son père soit décédé. Donc ce que Jacob demande ici, ça a l'air d'être bien calculé, planifié. Il connaît les faiblesses de son frère et il l'attaque là où il est faible. Les frères et les sœurs savent faire cela, n'est-ce pas? Oui, Ésaü, trop dicté par son souci de l'immédiat, son confort dans le court terme, il est prêt à donner à son frère ce droit d'aînesse. « Me voici, dit-il, sur le point de mourir. » Il est comme ici, je dirais comme un adolescent, où tout est noir ou blanc pour lui. Il n'a pas de contrôle de ses émotions, de ses hormones, de ses désirs. Et donc, face à ses désirs tellement forts sur le coup, il se dit « À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Alors Jacob, de nouveau bien calculé de son côté, il veut coincer son frère. Il ne faut plus de doute à ce sujet pour lui. « Prête-moi d'abord serment, » il lui dit. Ce qu'Ésaü fait, il vendit, dit le texte, son droit d'aînesse à Jacob. « Non ! Nous avons presque envie de dire à Ésaü, mais ne fais pas cela ! Ne sois pas aussi bête ! Ce droit d'aînesse vaut quelque chose quand même. » D'aînesse, pardon. Surtout dans votre famille, c'est lourd en conséquence de vendre cela. Cela anticipe plus tard ce que Jacob et Rebecca, sa mère, feront pour priver Ésaü également de la bénédiction qu'Isaac souhaite pour son fils aîné, la bénédiction par laquelle les promesses de Dieu devaient se réaliser. Comment donc l'histoire termine? Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Attendez. Qu'en est-il de ce roux alors qu'il désirait? Cette casserole de bonne viande rouge. Pendant les vacances de Noël, la famille Orange a eu l'occasion de manger et une fois une soupe aux lentilles et une autre fois, il y a deux jours, une bonne casserole de viande rouge. Inutile de vous dire lequel des deux a été le plus apprécié chez nous. Oui, une soupe à lentilles, ce n'est pas le festin d'enrever Ésaü. Il a vendu son droit d'aînesse pour cela. Il prenait même pas le temps de découvrir ce qui se trouvait dans la casserole. Quel idiot, sous-entendu. dans le texte. Quel mauvais échange! Et son silence après le repas. Le texte nous dit qu'il se leva et s'en alla. Bah, cela témoigne de sa déception, peut-être même son amertume par rapport à son frère. Voici donc l'histoire. Et le commentaire que donne la fin du chapitre nous mène à notre première réflexion. Nous en avons deux. Notre première réflexion par rapport à toute cette histoire. Premièrement, Ésaü était un homme profane. Ne suivons pas son exemple. Oui, le texte termine en disant ceci. C'est ainsi que Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Il n'aura pas dû le faire, bien entendu. Si c'est vrai que le récit de l'ensemble de l'histoire de Jacob n'a pas pour but de nous donner des exemples moralisateurs, ici, il y a un comportement que le texte dénonce explicitement. C'est rare, cela, en fait, dans le narratif de la Genèse. Et le Nouveau Testament, écrit à la lumière de l'œuvre de Jésus-Christ, reprend ce mauvais exemple. Si vous avez sous les yeux l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, vous voyez au verset 16 qu'il est écrit ceci. « Veillez à ce que personne ne soit débauché ni profanateur comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. » Le danger pour les chrétiens du 1er siècle qui recevaient cette lettre de la part de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'était de lâcher la foi chrétienne afin d'éviter la persécution, la souffrance. C'était de revenir vers le judaïsme, d'avoir une vie plus paisible, sans persécution. Mais, nous dit ce verset, « ne soyons pas profanateurs ». C'est-à-dire de mettre aucune valeur à ce que Dieu dit, à ce que Dieu promet, mais plutôt de traiter Dieu avec du mépris, car ce qui vous préoccupe, ce qui domine votre horizon, ce n'est rien que le court terme. Ne faites pas ça. Donc, si vous êtes, pour reprendre cette métaphore du train, dans le train et vous regardez dans quelques beaux paysages autour de vous et vous vous demandez est-ce mieux de quitter ce train pour en profiter, ces choses éphémères qui semblent vous offrir un certain bonheur dans l'immédiat, et vous pensez donc abandonner le Seigneur, il faut faire ce calcul-ci. D'un côté, il y a vos droits d'aînesse. Pour le croyant en Jésus-Christ, cela se traduit par la réalisation des promesses données à Abraham en Jésus-Christ, la bénédiction de nos péchés pardonnés par l'œuvre de Jésus à la croix. Une relation donc garantie, assurée, étroite, bénie avec Dieu. Une patrie céleste dans laquelle il n'y aura ni de mort, ni de larmes, ni de souffrance. Et cela pour toujours, car nous serons dans une création renouvelée. C'est ça, nos droits d'aînesse, d'un côté. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a ? Une casserole de viande qui vous donnera une satisfaction qui ne dure rien que quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques années. Mettre Dieu et sa parole à côté pour chercher une relation, une expérience qui dure pour si peu de temps face à l'éternité, c'est insensé. Parce que là, pour l'éternité, nous serons dans l'absence de Dieu, sous le jugement de Dieu, privés de ses bénédictions, sans espérance, sans Dieu lui-même. Ne faites pas cela, nous dit ce texte. Ne soyons pas donc dictés par nos désirs dans le présent, dans le court terme. mais plutôt comme nous exhorte le Nouveau Testament à d'autres endroits, par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Faites mourir les actions du corps. Bien sûr qu'à certains moments, rester dans le train peut paraître difficile. Comprenons cela. Parfois aussi, ça peut avoir l'air d'être assez seul. On est isolé. Car être chrétien biblique ici en Belgique en 2021, c'est de devoir souvent faire face, oui, à la mécompréhension, à la moquerie, à l'isolement, oui, à l'opposition. Mais ne pas poursuivre une relation amoureuse avec un non-croyant, cela peut paraître bizarre si tant d'autres autour de nous sont en train de faire ça à tout moment. Ne pas parler derrière le dos du patron lorsque les autres le font peut paraître dur. Participer à une petite église, à une église de taille moyenne, ou peut-être à un petit groupe de jeunes, cela peut paraître un peu bizarre lorsque vous voyez vos contemporains en train de se réjouir d'autres choses autour de vous. Mais de là, de comprendre les difficultés de la foi chrétienne, de vouloir quitter le train, de donner vos droits d'aînesse à quelqu'un d'autre, ne faites pas ça. C'est lamentable. Et c'est la Bible elle-même qui nous le dit. Ésaü était un homme profane, ne suivant pas son exemple. Mais après cela, nous nous attendons à ce que la deuxième application soit donc un contre-exemple en quelque sorte, n'est-ce pas? Jacob est un homme pieux, suivant son exemple. Mais non, l'histoire ne va pas du tout dans ce sens-là. Car Jacob, à ce stade, n'est rien qu'un homme manipulateur qui fait tout pour son propre intérêt. À lui, on arrive à la fin du chapitre, on n'a pas envie que Jacob gagne, parce qu'on voit qu'il avait manipulé la chose. Non, donc le récit souligne une autre vérité fondamentale, ultimement plus encourageante, que nous devons donc saisir. Dieu tient ses promesses et il agit de manière à ce que la gloire lui revienne et non pas aux hommes. Voyez-vous, les promesses données à Abraham poursuivent la course. Rebecca était stérile pendant 20 ans. Est-ce cela met la descendance d'Isaac en danger? Non, car le Seigneur répond à la prière d'Isaac. La famille d'Isaac était dysfonctionnelle. Isaac, Rebecca, Ésaü, Jacob ont tous les quatre des failles, de grandes failles. Mais Dieu œuvre derrière la scène pour que son plan s'effectue. Que dire par rapport à ça? Que son plan s'effectue à travers Jacob? Attends, Jacob? Et à quel moment avait-il prévu Dieu de se servir de Jacob et non pas d'Ésaü? Était-il plus tard dans le récit, une fois que le Seigneur avait humilié Jacob en le frappant à la hanche? On verra cela au chapitre 32. Non. Lorsqu'ils étaient, nous dit ce texte-ci, les deux garçons, dans le ventre de sa maman. Un de ses peuples sera plus fort que l'autre. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Ce qui se passe dans cette histoire relève de la main souveraine de Dieu. L'apôtre Paul reprend ce texte-ci dans l'Épître aux Romains pour expliquer aux chrétiens, au chapitre 9 de son Épître, comment il se fait que le peuple d'Israël, dans son ensemble, ne s'est pas tourné au Seigneur Jésus. Et il explique, Romains 9, verset 6, qu'il ne s'agissait pas d'une faille de la parole de Dieu, Car, disait-il, tous ceux qui descendent physiquement d'Israël ne sont pas Israël. Il affirme que ce sont les enfants de la promesse qui sont vraiment enfants de Dieu, donc la famille de Dieu, la vraie descendance d'Abraham. Et puis, il arrive à l'exemple d'Ésaü et Jacob. Romains, chapitre 9, verset 10. Bien plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut d'un seul homme, Isaac, notre père, les enfants. En effet, n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient encore fait ni bien ni mal. Et pourtant, afin que demeure le projet de Dieu, qui est selon son choix, relevant non pas des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, « Le plus grand sera l'esclave du plus petit. » Ainsi qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. » Oui, ce dernier verset se trouve pas dans la Genèse, se trouve en Malachie, mais va aussi dans la même direction que ces versets dans la Genèse. Le choix, nous dit ce texte-ci, avait été fait par Dieu avant la naissance de ces deux garçons. Et que déduit-il comme leçon, l'apôtre Paul, de cette vérité? Le choix de Jacob, de la part de Dieu, ne faisait pas sur base du mérite de l'un ou de l'autre. Paul le précise, il n'avait pas encore fait ni bien ni mal. Que Jacob, donc, soit utilisé par Dieu, choisi par Dieu, relève verset 12, non pas des œuvres, mais de l'appel de Dieu lui-même. Dieu appelle. Il appelle des gens comme Jacob, et oui, comme vous et moi. Sur quelle base? Sur base, nous dit ce texte, de son appel à lui. Oui, Dieu fera une œuvre en Jacob. Il façonnera Jacob, il transformera Jacob. C'est ça ce que Dieu fait quand il entre dans la vie de quelqu'un. C'est impossible de connaître Dieu sans qu'il nous influence et qu'il œuvre en nous pour notre bien. Mais ce n'est catégoriquement pas sur base de notre potentiel, de notre mérite, qu'il commence cette œuvre en nous. Non, c'est sur base de son choix, son appel à lui. Ici, je pense que nous comprenons tous les potentielles objections qui se soulèvent à cet instant. On tombe ici dans des domaines controversés entre chrétiens. Alors ce texte en Romains, ce n'est pas le seul texte à prendre en compte pour comprendre ces choses. Mais l'objection majeure à ce que Paul dit ici, c'est que si ceci est vrai, c'est que l'homme n'est donc plus responsable pour ses actes. Et si cela est le cas, pourquoi donc Ésaü est condamné pour ses actes? Car ultimement, c'est Dieu derrière le changement d'ordre entre lui et son frère. Mais voici une leçon importante pour nous. Il faut appliquer une vérité biblique de manière biblique. Il faut appliquer une vérité biblique de manière biblique. Et nulle part dans la Bible est-ce que cette vérité est appliquée pour que nous devenions fataliste, que parce qu'il y a élection, nous pouvons blâmer Dieu pour nos fautes, en disant que je ne suis rien pour finir d'un robot programmé d'avance par Dieu. Non, nous avons vu que la Bible tient Ésaü responsable. Cette leçon est appliquée pour que la gloire revienne à Dieu lui-même. À aucun moment le chrétien, Jacob ou vous et moi, pouvons-nous nous vanter de quoi que ce soit de notre côté. Même pas de notre foi. Non, le chrétien regarde en arrière, il voit son parcours et il dit, tout était par grâce. Et cela, chers amis, c'est super encourageant, profondément encourageant. Parce que cela signifie qu'il n'y a pas de première classe dans la foi chrétienne. Non, nous sommes tous dans le même wagon, le wagon de ceux qui ont été graciés par le Dieu qui nous a appelés. Et donc, pour la personne qui pense qu'il se trouve de temps à autre dans le wagon de deuxième classe, nous devons savoir que si Dieu peut se servir d'un Jacob, il sait se servir de vous. Vos regrets du passé, vos fautes du présent, vos craintes de l'avenir, ces choses n'empêchent pas le Dieu de Jacob de vous utiliser. Comme dit le Nouveau Testament à un autre endroit, 1 Thessaloniciens, celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Pour la personne qui se croit à l'extérieur du train, qui regarde par les vitres ceux qui sont à l'intérieur, Dieu peut-il agir dans votre vie malgré votre égoïsme, votre péché, votre passé lourd de complexité, de faute, de regret? Bien sûr, bien sûr. Pour le chrétien inquiet des choses inattendues pour le moment sur son trajet, qui voit des obstacles autour de lui, qui a peut-être dû vivre une division avec un autre croyant, qui se dit « qu'est-ce que cela signifie pour sa foi ?» qui a dû changer d'église de manière involontaire parce qu'il y a eu une division, qui a vu son église perdre son pasteur et qui se trouve pour le moment sans pasteur. On sait que c'est le cas d'une église de notre association pour le moment. Une église qui ferme parce qu'il y a plus de personnes, ou peut-être plus large, une pandémie qui nous prive pendant un long moment de l'encouragement chrétien. Se reposer sur le Dieu de Jacob qui agit derrière la scène pour mener son propre plan à terme, c'est libérateur. Ça permet une stabilité, une confiance. Et bien sûr, en Jésus-Christ, nous avons vu lors des événements à la croix un Dieu qui agit derrière la scène pour mener son propre plan à terme. Nous pouvons donc adorer notre Dieu. Nous pouvons avoir une confiance, non pas en nous-mêmes, que 2021 soit marqué par une humilité à notre égard par rapport à nous-mêmes, mais une confiance en Dieu qui appelle, qui effectue ses plans par sa puissance à lui au cours de notre histoire. Dieu tient ses promesses, il agit de manière à ce que la gloire lui revienne et non pas aux hommes. Alors si Dieu peut prendre un Jacob, il peut prendre vous et moi. Prions ensemble. Seigneur, nous te demandons que tu nous aides chacun à réfléchir de notre côté, de ne pas suivre ce mauvais exemple d'Ésaü, de ne pas mettre le court terme au devant de notre vie, mais de maintenir cet objectif, de savoir que nous sommes privilégiés, plus que toute autre personne ici sur terre, de comprendre et appeler par toi, d'appartenir à Jésus-Christ. Et donne-nous, peu importe nos circonstances, peu importe nos propres craintes par rapport à nous-mêmes, donne-nous de savoir que si toi, tu nous as promis de le faire, tu le feras. Tu es fidèle. Que cela soit un encouragement, que nous soyons encouragés tout au long de ces prochaines semaines dans la lecture de ce récit de Jacob. Que tu glorifies ton nom tout au long de cette année 2021 dans l'église de Woluwe à Bruxelles. Que chaque chrétien ici qui écoute ce que nous avons dit soit rempli d'humilité par rapport à lui-même et confiance par rapport à toi. Nous t'en prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.